Jean Rictus, La messe chez le bistrot, essai sur l'ésotérisme des choses familières. Cinq ou six compagnons robustes, des maçons, des déménageurs ou des charpentiers, pénètrent chez le bistrot. Il est 4 heures de l'après-midi, c'est le moment du casse-croûte, cher à tous ceux dont les muscles friment depuis le matin. Vers le même instant de la journée, d'autres personnes d'une catégorie sociale différente lâchent et flirtent dans les tea rooms ou les garçonnières. Mais là, chacun son genre de plaisir, n'est-ce pas? Debout près du comptoir, en étain, les ouvriers forment un chœur, un groupe de comparses rugueux, de poteaux, au visage humble et naïf, leur dos voûté, leurs bras ballants, leurs traits tirés, disent leur fatigue. Pendant quelques minutes, ils restent muets et les regards sont vagues. Sans même qu'il en soit requis, le bistrot, qui connaît sa fonction dans la vie, va prendre à la huche un long pain fendu et de retour dans son comptoir, en coupe et distribue autant de morceaux qu'il y a d'assistants. L'un d'entre eux réclame du fromgy. « Bon, approuve le marchand de vin. Mais à part ça, qu'est-ce que vous prenez les enfants ?»« Oh, moi, affirme péremptoire un enfant de 6 pieds, moi, ce sera du vin. Et vous, les frangins ?»« Ben, nous aussi, ce sera du vin. » déclare le cœur. « Pas trop, 1 kilo !» Toutefois, l'un des gars propose « Et si qu'on prenait une bonne bouteille ?»« Convenu, allez, vas-y, bouffi !» Aussitôt, le patron choisit des petits verres fins à pied, des petits bordeaux, et les aligne devant ses clients. Car pour savourer du supérieur, il faut des récipients moins grossiers aux lèvres que les canons ordinaires qui enlèveraient son bouquet. Puis il plonge dans la cave et remonte un peu après, avec précaution, une négresse poussiéreuse à chéchia de cire rouge. Ses manches retroussées découvrent ses bras nus, gros, comme ceux d'un sacrificateur rituel. Il place la bête entre ses cuisses, ainsi qu'un boucher le ferait d'un agneau. Il lui enfonce dans la gorge, pardon, dans le goulot, l'outil meurtrier, et d'un seul coup, vigoureux, lui déchire la carotide, enfin, j'entends qu'il lui débouche la bonne bouteille. Les enfants ont surveillé tous les mouvements, prêts à l'invectiver au cas où il l'eût trop secoué, car leur respect pour le vin héréditaire est mystique. Mais point, le patron partage leur culte. Et avec la ferveur sérieuse, la lenteur sérieuse d'un officiant, il commence à remplir les petits bordeaux et le flot pourpre glougloute, vermeil et translucide comme un sang surnaturel. Et vous, patron, qu'est-ce que vous prenez ? Bon, ce sera tout comme vous, répond-il. Et à son tour, il se verse un doigt de liquide sacré avec discrétion pour trinquer. L'instant est grave. Élevant son verre au-dessus des yeux, afin qu'on puisse admirer dans la lumière la beauté et la couleur du vin, il semble rendre grâce au soleil, père des vendanges et de toutes choses créatées sur la terre. « Regardez-moi ça !» Et tous imitent sa libation, et les réponses s'expriment. « Oh, c'est du bat, du chelu !»«
Sûr, celui-là, non !»
Alors, solennel comme un ministre du Dieu vivant, le bistrot donne le signal essentiel, et chacun, renversant la tête, La liqueur sublime et mystérieuse coule dans les gosiers avides. Forte lampée, claquement de langue, silence, recueillement prolongé, méditation instinctivement religieuse. Puis les teints s'empourprent, le visage se détendent, les yeux rient, la joie divine règne dans les cœurs. On repose les verres, et ce petit choc sur le comptoir dissipe l'extase, et des avis se formulent. Oh, c'est un vrai velours! Ah, oh, mais palpitant, ça le calme! Oh, il y a encore que l'angle, ça réchauffe. Oh, ça fait du bien par où que ça passe. On en ferait mourir. Et bientôt, la chaleur du breuvage, pénétrant les poitrines, et montant aux cervelles, frustes, naissent les nazis et les propos salés. On s'envoie de grandes claques amicales, et on trempe le vin. Le pain dans le vin, mariant ainsi les deux substances. Pas de querelle, mais de la tendresse fraternelle et de la gaieté entre rude gaillard, entre pauvre diable. Il n'imagine pas de consolation plus grande. Assis dans un coin de la salle, j'ai d'abord suivi distraitement cette scène vulgaire en apparence et tant de fois observée. Mais certaines phrases, certains gestes ont pour moi une signification symbolique. L'homme n'est-il pas identique à lui-même à travers l'espace et le temps? La loi d'évolution, qui n'implique pas l'idée de progrès, ne modifie pas ses mouvements vitaux, qui sont en petit nombre et qu'il recommence chaque jour. Donc chacun de ces gestes ordinaires qui ont pour but de perpétuer la vie, retentit dans l'idéal. Et peu à peu, je suis frappé par l'analogie existante entre la scène qui se déroule et la cérémonie eucharistique. J'ai beau vouloir échapper à cette vision, tyranniquement elle s'impose à mon esprit, et malgré moi, j'en découvre et interprète l'ésotérisme. Les accessoires m'y aident, même. Tout, jusqu'aux phrases des protagonistes, donne le sens caché, se dévoile, et m'apparaît sous l'angle chrétien, et j'en consigne ici l'exégèse inattendue. J'assiste à la messe, à la communion des fidèles, sous les espèces du pain et du vin que notre Seigneur Jésus-Christ a institué. Mangez, ceci est mon corps, buvez, ceci est mon sang. Sans oublier la parole, lorsque vous vous réunirez en mon nom, en quelque lieu que ce soit, je descendrai parmi vous. Ainsi s'avère la présence du Sauveur chez le bistrot, aidé par les substances du sacrifice, le pain et le vin. Chez le bistrot, au milieu des pauvres, qui invoque inconsciemment au milieu des pauvres où il est toujours. Or, la communion fut instituée par le divin maître afin de faire régner l'amour et la fraternité entre les pauvres. Aimez-vous donc les uns les autres. L'éclairage antique équivaut au prolétariat moderne. L'esclavage antique équivaut au prolétariat moderne. Si Jésus fut le Dieu des esclaves jadis, il est aujourd'hui uniquement celui des salariés, des locataires, des écrivains honnêtes, des artistes, et ne peut à aucun moment passer pour favoriser les propriétaires, encore que ces derniers s'en soient emparés contre toute logique, toute justice. Comme étant ainsi la plus révoltante profanation, le plus étonnant des sacrilèges. Jésus n'est autre chose que la cristallisation des souffrances populaires, des travailleurs, des prolos, de leur désir universel, amour tant de fois trahi et bafoué. Je défie qu'on me prouve le contraire. Tous les pères de l'Église, tous les saints me donnent raison. Maintenant, le symbole évangélique est complet. Je comprends quelque chose de raccourci du drame chrétien. La simple dégustation d'une bonne bouteille prend des proportions grandioses. Tout y est, d'ailleurs, y compris le décor. Le comptoir devient l'autel et la table sainte dont s'approchent ceux qui ont faim et sont amoureux de paix. La bouteille offerte est le sacrifice ancien de l'agneau, remplacé par l'emblématique hostie. Et le prêtre ou sacrificateur, c'est le bistrot bras nu. Jésus, mine solaire, est appelé l'agneau dans les textes. Ils ont répandu le sang de l'agneau. Tout homme d'action, tout prophète qui aime l'espèce est canonisé, d'ailleurs en mythe solaire, par la mémoire reconnaissante des hommes. Pour Jésus, agneau ou agni ou igni sont des vocables sanscrits qui désignent le feu ou le soleil. Le soleil étant le père de la vigne, le vin se trouve devenir strictement le sang du Christ ou de l'astre dont les bienfaits se répandent sur tous les hommes sans distinction de caste. Reflet du soleil, miroir de l'amour, ô Jésus. Et ce symbole du feu se retrouve brodé sur la chasuble du prêtre catholique, car on y voit un soleil en flamme derrière une croix, et la croix formée de deux bâtons mémorables par lesquels les peuples primitifs ou prétendus tels obtenaient le feu. Quant au pain du froment, considéré par l'esclave antique comme une friandise, on sait que c'est la civilisation chrétienne qui en popularisa l'usage. Maintenant, je n'interpréterai que quelques paroles ou gestes des ouvriers qui boivent une bonne bouteille pour le déroulement logique de la similitude. Inconscient serviteur du divin, lorsqu'il nomme le bistrot patron, lequel les appelle ses enfants, et qu'entre eux, il se qualifie de frangin, et qu'enfin il réclame les indispensables substances, le pain et le vin, il faut entendre la prière de leurs âmes, qui révèle leurs attitudes, les yeux vides, leurs traits tirés et désespérés. Notre Père, nous sommes pauvres et là, notre besogne est dure et notre cœur est amer. Écoute notre plainte. Nous acceptons de gagner notre pain à la sueur de nos fronts, mais gagner le pain de ceux qui nous exportent est juste. Est-il juste, ô Seigneur? Nous sommes tes fils et frères entre nous, et nous venons, selon ton invitation renouvelée au cours des siècles, manger ton corps et boire ton sang, afin de nous réjouir, de nous aimer et reprendre des forces pour continuer notre labeur et notre vie, en attendant que sur la terre ton règne arrive, le règne du définitif amour. Puis, lorsque d'un mouvement unique, il hausse les verres ou calice vers la lumière et lui rend grâce en disant « C'est du bat, c'est du chenu, etc. » Cet instant s'appelle l'élévation. Il n'a pas d'autre nom. Enfin, j'ai suffisamment indiqué pour l'instant de la transsubstantiation au changement miraculeux de la substance du pain et du vin en celle du corps et du sang de notre Seigneur, lorsque j'ai démontré la présence réelle et continuelle parmi les fauves, fussent-ils réunis autour d'un comptoir de mastoquets, après la lampée s'élève de leur cœur réconforté, l'hymne reconnaissant qu'ils traduisent par « ça fait du bien par où que ça passe », etc., etc. J'en suis là de mon émerveillement. Voici la fin de la cérémonie qui corrobore mon interprétation. Le quart d'heure du casse-croûte est passé. Il faut retourner au boulot. On achève de vider la bouteille. Chacun tire de son gousset sa part de dépense. Se continue l'offrande. Et on trinque une dernière fois. À vos santé, les frangins! À la tienne, Étienne! Ite missa est. La messe est terminée. Ils s'en vont, et comme souvent cela se produit, la conversation étant tombée sur la religion, ils font profession d'athéisme et déblatèrent contre les curés.